Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé de membres demeurant dans les régions de Grantsville, Stansbury Park et Tule en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Urdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Dear brothers and sisters, will you welcome...
Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux dans différentes parties du monde où la conférence est diffusée par satellite. Nous saluons les autorités générales et officiers généraux qui seront présents tout au long de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de membres des régions de Grantsville, Stansbury Park et Tule en Utah sous la direction de Holly Bevan avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant Arise, O God and Shine. Wilford W. Anderson, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Henry B. Herring, premier conseiller dans la première présidence, présentera ensuite le nom des officiers généraux de l'Église et des 70 d'interrégion pour un vote de soutien.
Notre cher Père Céleste, en commençant cette session de la conférence générale, nous inclinons la tête avec reconnaissance dans cette réunion transmise de partout dans le monde. Nous te reconnaissons, toi notre Père, et toutes les bénédictions que tu nous donnes. Nous te remercions pour le sacrifice expiatoire de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, et pour l'espérance qui vient de la foi exercée en lui. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile en cette dispensation. Et te remercions pour notre prophète, le président Manson. Nous prions pour lui, nous l'aimons, nous le soutenons, afin qu'il reçoive l'aide d'en haut dans ses responsabilités sacrées. Alors que beaucoup viennent assister à cette conférence avec des questions, des soucis, des pensées, te prions que le Saint-Esprit nous accompagne afin qu'il nous apporte la paix, réponde à nos questions et nous fournisse des idées de résolution à prendre pour résoudre nos soucis. Au nom de Jésus-Christ, amen.
It is proposed that we sustain.
Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y avait des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les douze apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever, avec des remerciements pour leur service remarquable, Carlos H. Amado et William R. Walker, de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les nommer autorité générale émérite. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur service dévoué, le manifestent. Arayik V. Minasayan et Kvido Senkans ont été relevés de leur appel de 70 d'interrégion. Il nous est proposé de leur exprimer nos remerciements pour leur service. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et président général d'auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Merci, frères et sœurs, de votre foi et de vos prières en notre faveur. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre le chœur chanter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Après le chœur, nous entendrons Dallin H. Oaks et Neil L. Anderson du Collège des Douze Apôtres. Ils seront suivis de Tad R. Callister, président général de l'école du dimanche.
In the concluding days of his mortal ministry,
dans les derniers jours de son ministère terrestre, Jésus a donné à ses disciples ce qu'il a appelé un commandement nouveau. Ce commandement, énoncé trois fois, était simple mais difficile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'enseignement de s'aimer les uns les autres avait été un enseignement essentiel du ministère du Sauveur. Le deuxième grand commandement était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus a même enseigné « Aimez vos ennemis ». Mais le commandement d'aimer les autres comme il avait aimé ses brebis était pour ses disciples et pour nous un défi exceptionnel. En avril dernier, le président Monson nous a enseigné « En réalité, l'amour est l'essence même de l'Évangile et Jésus-Christ est notre modèle. Sa vie est un legs d'amour. » Pourquoi est-il si difficile de faire preuve d'amour chrétien les uns envers les autres? C'est difficile parce que nous devons vivre parmi des personnes qui ne partagent pas nos croyances, nos valeurs et les obligations qui sont attachées à nos alliances. Dans sa belle prière d'intercession, prononcée juste avant sa crucifixion, Jésus a dit en parlant de ses disciples, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Puis il a supplié le Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous devons vivre dans le monde, mais ne pas être du monde. Nous devons vivre dans le monde parce que, comme Jésus l'a enseigné dans une parabole, son royaume est semblable à du levain, dont la fonction est de faire lever toute la pâte par son influence. Ses disciples ne peuvent pas faire cela s'ils ne fréquentent que des personnes qui partagent leurs croyances et leurs pratiques. Mais le Sauveur a aussi enseigné que si nous l'aimons, nous respecterons ses commandements. L'Évangile comporte de nombreux enseignements sur l'obéissance aux commandements pendant que nous vivons parmi des gens aux croyances et aux pratiques différentes des nôtres. Les enseignements portant sur les querelles occupent une grande place. Quand il a vu les néphites se quereller au sujet de la manière de baptiser, le Christ ressuscité a donné des instructions claires sur la façon dont cette ordonnance devait être accomplie. Puis il a enseigné ce grand principe. Il n'y aura plus de controverses parmi vous, comme il y en a eu jusqu'à présent, et il n'y aura plus non plus de controverses parmi vous concernant les points de ma doctrine, comme il y en a eu jusqu'à présent. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles. Et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. Voici, c'est ma doctrine, que de telles choses soient abandonnées. Le Sauveur n'a pas limité ses mises en garde contre les querelles aux personnes qui ne respectaient pas le commandement concernant le baptême. Il a interdit à tout le monde de se quereller. Même les personnes qui obéissent au commandement ne doivent pas exciter le cœur des hommes à la querelle et à la colère. Le père des querelles est le diable. Le Sauveur est le prince de la paix. De même, la Bible enseigne que les sages calment la colère. Les apôtres d'autrefois ont enseigné que nous devions rechercher ce qui contribue à la paix et professer la vérité dans la charité, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans la révélation moderne, le Seigneur a commandé que la bonne nouvelle de l'Évangile rétabli soit annoncée par chacun à son voisin avec douceur et humilité, en n'insultant pas ceux qui insultent. Même en cherchant à être humble et à éviter les querelles, nous ne devons pas faire de compromis ou faiblir dans notre engagement envers les vérités que nous comprenons. Nous ne devons pas renoncer à notre position ou à nos valeurs. L'Évangile de Jésus-Christ et les alliances que nous avons contractées font inévitablement de nous des combattants dans le conflit éternel entre la vérité et l'erreur. Il n'y a pas de terrain neutre dans ce conflit. Le Sauveur nous a montré la voie quand ses adversaires lui ont amené la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Confrontés à leur hypocrisie, les accusateurs se sont retirés et ont laissé Jésus seul avec la femme. Il a traité avec bonté, en refusant de la condamner à ce moment-là. Mais il lui a également dit avec fermeté, « Ne pêche plus ». Il est nécessaire de faire preuve de bonté, mais un disciple du Christ, tout comme le Maître, est ferme dans la vérité. Comme le Sauveur, ses disciples rencontrent parfois des comportements pécheurs, et de nos jours, on les qualifie quelquefois de sectaires ou de fanatiques quand ils défendent le bien et dénoncent le mal, selon leur compréhension. De nombreuses valeurs et pratiques du monde extérieur à l'Église présentent ce genre de difficultés au sein des derniers jours. Parmi les plus importantes aujourd'hui, il y a la marée puissante qui légalise le mariage entre personnes du même sexe dans de nombreux États des États-Unis, provinces du Canada et dans de nombreux pays du monde. Nous vivons aussi au milieu de gens qui ne croient pas du tout au mariage. Certains ne croient pas au fait d'avoir des enfants. Certains sont opposés à toute forme de restriction concernant la pornographie ou la drogue. Un autre exemple que la plupart des croyants connaissent est la difficulté de vivre avec un conjoint ou un membre de la famille non-croyant ou de côtoyer des collègues non-croyants. Dans les lieux consacrés, tels que les temples, les lieux de culte ou notre foyer, nous devons enseigner la vérité et les commandements avec clarté et de façon approfondie tels que nous les comprenons grâce au plan du salut révélé dans l'Évangile rétabli. Notre droit de le faire est protégé par les garanties constitutionnelles de la liberté d'expression et de culte, ainsi que par le respect de la vie privée, qui est reconnu même dans des pays dépourvus de garanties constitutionnelles officielles. En public, ce que des personnes religieuses disent et font implique d'autres considérations. Le libre exercice de la religion s'applique à la plupart des actes publics, mais il est soumis à des conditions nécessaires pour laisser la place aux croyances et aux pratiques d'autrui. La loi peut interdire les comportements qui sont généralement reconnus comme mauvais ou inacceptables. Par exemple, l'exploitation sexuelle, la violence ou les actes terroristes, même quand des extrémistes s'y livrent au nom de la religion. Il peut y avoir des comportements moins graves, bien qu'inacceptables aux yeux de certains croyants, qu'il faut bien supporter s'ils sont légalisés, parce qu'un prophète du Livre de Mormon a appelé la voix du peuple. Pour ce qui est du discours public, nous devrions tous suivre les enseignements de l'Évangile, d'aimer son prochain et d'éviter les querelles. Les disciples du Christ doivent être des exemples de civilité. Nous devons aimer tous les gens, savoir les écouter et témoigner de l'intérêt pour leurs croyances sincères. Nous pouvons être en désaccord, mais nous ne devons pas être désagréables. Nos prises de position et nos déclarations portant sur des sujets controversés ne doivent pas être animées d'un esprit de querelle. Nous devons faire preuve de circonspection quand nous expliquons et défendons notre position et exerçons notre influence. Ce faisant, nous demandons que les autres ne soient pas offensés par nos croyances religieuses sincères et le libre exercice de notre religion. Nous recommandons à tous d'appliquer la règle d'or du Sauveur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand notre point de vue ne l'emporte pas, nous devons accepter de bonne grâce les résultats qui ne sont pas en notre faveur et faire preuve de courtoisie envers nos adversaires. Nous devons être en toutes circonstances des personnes de bonne volonté envers tous, rejetant toute forme de persécution, notamment fondée sur la race, l'ethnie, les croyances religieuses, ou l'absence de croyance et les différences d'orientation sexuelle. J'ai parlé de principes généraux. Je vais maintenant parler de la façon dont ces principes doivent s'appliquer dans différentes situations familières dans lesquelles nous devons suivre les enseignements du Sauveur plus fidèlement. Je commence par ce que nos jeunes enfants apprennent pendant qu'ils jouent. Trop souvent, des non-mormons ici en Utah ont été offensés et mis à l'écart par certains de nos membres qui n'autorisent pas leurs enfants à se lier d'amitié avec des enfants d'une autre religion. Il est certain que nous pouvons enseigner à nos enfants des valeurs et des règles de comportement sans leur demander de se tenir à distance de ceux qui sont différents ou de leur manquer de respect. De nombreux instructeurs à l'église et d'enseignants à l'école ont été peinés de voir comment certains adolescents, y compris des jeunes de l'église, se traitent les uns les autres. Il ne fait aucun doute que le commandement de s'aimer les uns les autres implique un amour et un respect qui transcendent les différences religieuses, raciales, culturelles ou économiques. Nous demandons à tous les jeunes de ne pas se livrer au harcèlement et aux insultes et de ne pas avoir un langage et des pratiques qui infligent délibérément des souffrances à autrui. Tout cela enfreint le commandement du Sauveur de nous aimer les uns les autres. Il a enseigné que les querelles sont un instrument du diable. Cela dénonce clairement certaines formes de langage et certaines pratiques qui ont cours aujourd'hui en politique. Avoir des opinions divergentes est essentiel en politique, mais les divergences d'opinions ne doivent pas entraîner d'attaques personnelles qui empoisonnent le processus du gouvernement et punissent les participants. Nous devons tous bannir les déclarations haineuses et respecter les différences d'opinions. Le cadre où il est le plus important de s'abstenir de querelles et de respecter les différences est celui de notre foyer et de nos relations familiales. Les différences sont inévitables. Certaines sont minimes, d'autres considérables. Pour ce qui est des différences considérables, imaginez qu'un membre de votre famille vive en concubinage. Cela crée un conflit entre deux valeurs importantes, notre amour pour le membre de la famille et notre engagement vis-à-vis des commandements. En suivant l'exemple du Sauveur, nous pouvons faire preuve de gentillesse et rester néanmoins ancrés dans la vérité en nous abstenant d'agir d'une manière qui facilite ou semble cautionner ce que nous savons être mal. Je termine par un autre exemple de relation familiale. À l'occasion d'une conférence de pieux dans le Midwest, il y a environ 10 ans, j'ai fait la connaissance d'une sœur qui m'a dit que son mari non-membre l'accompagnait à l'église depuis 12 ans, mais ce n'était jamais joint à l'église. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai recommandé de continuer de faire tout ce qui était juste et d'être patiente et gentille envers son mari. À peu près un mois plus tard, elle m'a écrit ceci. « Eh bien, je pensais que ces 12 années étaient une belle preuve de patience, mais je n'étais pas sûr d'être très gentille. » Alors j'y ai travaillé très dur pendant plus d'un mois, et il s'est fait baptiser. La gentillesse a un grand pouvoir, en particulier dans le cadre familial. Sa lettre se poursuivait ainsi. J'essaye même d'être plus gentil maintenant, parce que nous nous préparons à être scellés au temple cette année. 6 ans plus tard, elle m'a écrit une autre lettre. Mon mari vient d'être appelé et mis à part comme évêque de notre paroisse. Il y a tant de relations et de situations où nous devons accepter les différences. Quand c'est crucial, nous ne devons ni nier ni abandonner ces différences, mais nous, disciples du Christ, nous devrions vivre en paix avec les personnes qui ne partagent pas nos valeurs ni n'acceptent les enseignements sur lesquels elles sont fondées. Le plan du salut du Père, que nous connaissons par révélation donnée aux prophètes, nous place dans la condition mortelle où nous devons obéir à ses commandements. Cela implique, entre autres choses, d'aimer ceux de nos voisins qui ont une culture et des croyances différentes, comme Dieu nous a aimés. Comme l'a enseigné un prophète du Livre de Mormon, nous devons marcher résolument, ayant l'amour de Dieu et de tous les hommes. Il est difficile de vivre dans l'agitation qui nous entoure. Mais le commandement de notre Sauveur de nous aimer les uns les autres comme il nous aime est probablement notre plus grand défi. Je prie pour que nous le comprenions et cherchions à le vivre dans toutes nos relations et dans toutes nos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lors de sa première visite à Joseph Smith, le prophète, âgé de 17 ans, un ange l'appela par son nom et lui dit qu'il était Moroni, messager envoyé depuis la présence de Dieu, et que Dieu avait une œuvre à lui confier. Imaginez ce que Joseph a dû ressentir quand l'ange lui a dit que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues. Peut-être qu'en voyant le choc dans les yeux de Joseph, Moroni a dû répéter qu'on dirait du bien et du mal de lui parmi tous les peuples. Le bien au sujet de Joseph Smith s'est dit lentement. Le mal a été répandu immédiatement. Joseph a écrit, « Il était bien étrange qu'un garçon obscur fût jugé assez important pour attirer l'esprit de persécution et d'insulte le plus violent. L'amour pour Joseph grandit, tout comme l'hostilité à son égard. Il fut assassiné à l'âge de 38 ans par un groupe de 150 émeutiers au visage peint. La vie du prophète prit fin brusquement, mais depuis, on a cessé de dire du bien et du mal à son sujet. Devrions-nous être surpris par le mal qui se dit à son sujet? L'apôtre Paul fut qualifié de fou et d'insensé. Notre Sauveur bien-aimé, le Fils de Dieu, fut traité de mangeur et buveur de vin et accusé d'être possédé par un démon. Le Seigneur annonça à Joseph sa destinée. Les extrémités de la terre s'informeront de ton nom, les insensés te tourneront en dérision et l'enfer fera rage contre toi. Tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages, les vertueux, chercheront constamment les bénédictions de tes mains. Pourquoi le Seigneur permet-il aux paroles mauvaises de poursuivre les personnes justes? L'une des raisons est que l'opposition aux choses de Dieu amène ceux qui recherchent la vérité à s'agenouiller pour obtenir des réponses. Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Son œuvre spirituelle commença avec l'apparition du Père et du Fils, suivie par de nombreuses apparitions de messagers célestes. Il fut l'instrument entre les mains de Dieu pour faire paraître les Écritures, des points de doctrine perdus et rétablir la prêtrise. L'importance de l'œuvre de Joseph ne peut pas simplement être considérée au plan intellectuel. Elle nécessite que, comme Joseph, nous nous adressions à Dieu. Les questions spirituelles nécessitent des réponses spirituelles de Dieu. Beaucoup des personnes qui rejettent l'œuvre du rétablissement ne croient tout simplement pas que des êtres divins parlent aux hommes sur terre. Elles disent, il est impossible que des plaques d'or aient été données par un ange et traduites par le pouvoir de Dieu. À cause de cette incrédulité, elles rejettent très vite le témoignage de Joseph. Et malheureusement, certaines tombent si bas qu'elles cherchent à discréditer la vie du prophète et à salir sa personnalité. Nous sommes particulièrement attristés quand une personne qui a révéré Joseph rejette ses convictions et diffame le prophète. Neil A. Maxwell a dit, « Étudier l'Église du point de vue des gens qui l'ont quittée, c'est comme interroger Judas pour comprendre Jésus. Les déserteurs en disent toujours plus sur eux-mêmes que sur l'organisation qu'ils ont quittée. » Jésus a dit, « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Faisons preuve de gentillesse envers les gens qui critiquent Joseph Smith, sachant dans notre fort intérieur que Joseph était un prophète de Dieu et étant réconforté parce que nous savons que Moroni l'avait prédit. Comment devrions-nous répondre à quelqu'un qui s'interroge sincèrement sur les commentaires négatifs qu'il entend ou lit au sujet de Joseph Smith, le prophète? Bien entendu, nous accueillons toujours bien les questions honnêtes et sincères. Aux questions sur la personnalité de Joseph, nous pouvons répondre par les paroles des milliers de personnes qui l'ont connu personnellement et ont donné leur vie pour l'œuvre qu'il a contribué à établir. John Taylor, qui a reçu 4 balles quand les émeutiers tuèrent Joseph, déclara plus tard, « Je témoigne devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, que Joseph était un homme bon, respectable et vertueux, qu'il était irréprochable en public comme en privé, et qu'il a vécu et est mort en homme de Dieu. » À quiconque cherche sincèrement, nous pouvons rappeler que les informations publiées sur Internet n'ont pas un filtre de vérité. Aussi convaincantes soient-elles, certaines informations ne sont tout simplement pas vraies. Il y a des années, j'ai lu un article du magazine Time qui parlait d'une lettre qu'on avait récemment découverte, prétendument écrite par Martin Harris, et qui contredisait le récit de Joseph Smith concernant la découverte des plaques du Livre de Mormon. Quelques membres ont quitté l'Église à cause de ce document. Hélas, ils sont partis trop vite. Des mois plus tard, des experts ont découvert, et le faussaire a confessé, que la lettre était un faux. Il est tout à fait normal de questionner ce qu'on entend dans les nouvelles, mais on ne doit jamais douter du témoignage des prophètes de Dieu. Nous pouvons rappeler à celui qui recherche sincèrement que certains renseignements sur Joseph Smith, bien que vrais, peuvent être présentés complètement en dehors de leur contexte historique. Russell M. Nelson a illustré ce point. Il a raconté, « J'étais assistant du gouvernement américain au centre de contrôle des épidémies à Atlanta, en Géorgie. Un jour, après nos réunions, attendant qu'un taxi m'amène à l'aéroport, je me suis allongé sur la pelouse pour profiter des quelques rayons de soleil avant de retrouver le temps hivernal de l'Utah. J'ai reçu plus tard, par courrier, une photo prise par un photographe avec un tel objectif. Saisissant ce moment de détente sur la pelouse avec la légende, consultant gouvernemental au Centre national de contrôle des épidémies. La photo était vraie, la légende aussi. Mais la vérité était utilisée pour donner une impression fausse. Ne rejetons pas quelque chose que nous savons être vrai à cause de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Nous pouvons rappeler à celui qui recherche sincèrement que Joseph n'était pas le seul à avoir vu des anges. Les témoins du Livre de Mormon ont écrit, « Nous déclarons en toute sincérité qu'un ange de Dieu est venu du ciel. » Et nous avons contemplé et vu les plaques. Nous pouvons citer beaucoup d'autres témoins. Celui qui recherche sincèrement devrait voir dans la propagation de l'Évangile rétabli, dans le monde entier, un fruit de l'œuvre du Seigneur à travers le prophète. Il y a maintenant plus de 29 000 assemblées et 88 000 missionnaires qui enseignent l'Évangile à travers le monde. Des millions de saints des derniers jours s'efforcent de suivre Jésus-Christ, de mener une vie honorable, de prendre soin des pauvres et de donner de leur temps et de leur talent pour aider les autres. Jésus a dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces explications sont convaincantes, mais celui qui cherche sincèrement ne doit pas s'appuyer uniquement sur elles, dans sa recherche de la vérité. Chaque croyant a besoin d'une confirmation spirituelle de la mission et du caractère divin de Joseph Smith, le prophète. C'est vrai pour chaque génération. Les questions spirituelles méritent des réponses spirituelles de Dieu. Dernièrement, lors d'une visite sur la côte Est, un membre qui rentrait de mission m'a parlé d'un de ses amis qui était déçu à cause d'informations qu'il avait reçues sur Joseph Smith, le prophète. Ils avaient parlé à plusieurs reprises, et l'ancien missionnaire semblait avoir lui-même des doutes quant au résultat de la discussion. J'espérais qu'il pourrait fortifier son ami, mais je m'inquiétais pour son propre témoignage. Frères et sœurs, je vous donne un avertissement. Vous ne serez pas d'une grande aide pour les autres si votre propre foi n'est pas ferme. Il y a quelques semaines, j'ai pris l'avion pour l'Amérique du Sud. L'hôtesse de l'air a attiré notre attention sur une vidéo sur les consignes de sécurité. Nous avons reçu cet avertissement. Il est peu probable que cela arrive, mais si la pression dans la cabine change, les panneaux situés au-dessus de votre siège s'ouvriront et des masques à oxygène tomberont. Si cela arrive, prenez le masque, placez-le sur votre nez et votre bouche, placez l'élastique sur votre tête et ajustez le masque si nécessaire. Puis, cet avertissement. Ajustez votre propre masque avant d'aider les autres. Les commentaires négatifs au sujet de Joseph Smith, le prophète, augmenteront au fur et à mesure que nous nous approcherons de la seconde venue du Sauveur. Les demi-vérités et les tromperies subtiles ne diminueront pas. Des membres de votre famille et de vos amis auront besoin de votre aide. C'est maintenant que vous devez ajuster votre masque à oxygène spirituel pour être préparés à aider les personnes qui recherchent la vérité. Un témoignage de Joseph Smith, le prophète, peut être donné de manière différente à chacun d'entre nous. Il peut vous être donné tandis que vous êtes à genoux pour prier, demandant à Dieu de vous confirmer qu'il était un véritable prophète. Il peut vous être donné tandis que vous lisez le récit de la première vision du prophète. Un témoignage peut se distiller sur votre âme pendant que vous lisez le Livre de Mormon, encore et encore. Il peut vous venir pendant que vous rendez témoignage du prophète ou que dans le temple, vous comprenez que grâce à Joseph Smith, le pouvoir sacré du scellement a été rétabli sur la terre. Avec la foi et l'intention réelle, votre témoignage de Joseph Smith, le prophète, sera renforcé. Les jets croissants de ballons pleins d'eau venant de la touche peuvent vous mouiller, mais ils ne doivent jamais, jamais éteindre le feu ardent de la foi. Aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, j'adresse cette exhortation. Obtenez un témoignage personnel de Joseph Smith, le prophète. Que votre voix aide à accomplir les paroles prophétiques de Moroni. Parlez-en bien du prophète. Voici deux idées. Premièrement, trouvez dans le Livre de Mormon des passages que vous sentez et savez être absolument vrais. Puis dans le Livre de Mormon, puis faites-en part à votre famille et à vos amis, à la soirée familiale, au séminaire et dans vos classes des jeunes gens et des jeunes filles, reconnaissant que Joseph Smith a été un instrument entre les mains de Dieu. Ensuite, lisez le témoignage de Joseph Smith, le prophète, dans la Perle de Grand Prix, ou dans cette brochure, maintenant disponible en 158 langues. Vous pouvez la trouver en ligne sur lds.org/youth/learn. Vous pouvez vous la procurer en ligne sur lds.org ou auprès des missionnaires. Lisez-le souvent. Vous pourriez enregistrer le témoignage de Joseph Smith avec votre propre voix, l'écouter régulièrement et le faire écouter à vos amis. Le fait d'écouter le témoignage du prophète dans votre propre voix vous aidera à obtenir le témoignage que vous recherchez. Des jours grands et merveilleux nous attendent. Le président Monson a dit, cette grande cause continuera d'aller de l'avant. Et ce faisant, de changer des vies et d'apporter des bénédictions. Aucune force dans le monde ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, cette noble cause ira de l'avant. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Notre Rédempteur a choisi un saint homme, un homme juste, pour diriger le rétablissement de la plénitude de son évangile. Il a choisi Joseph Smith. Je témoigne que Joseph Smith était un homme honnête et vertueux, un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus. Il a traduit le Livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Dans notre société, au-delà du voile de la mort, nous comprendrons clairement l'appel sacré et la mission divine de Joseph Smith, le prophète. En ce jour proche, Joseph sera par chacun acclamé, par vous, par moi, et par des millions d'autres personnes, Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson disait lui-même, j'étais le plus mauvais élève de ma classe en dernière année d'école primaire. Un jour, Ben a eu une interrogation écrite de maths qui contenait 30 questions. L'élève assis derrière lui a corrigé la copie de Ben et la lui a rendue. L'institutrice, Madame Williamson, a commencé à appeler les élèves, un par un, pour leur demander le résultat. Finalement, elle est arrivée à Ben. Gênée, il a marmonné sa réponse. Madame Williamson, pensant qu'il avait dit 9, a répondu que pour Ben, 9 sur 30 était une amélioration remarquable. L'élève qui était derrière lui a crié, « Pas 9, il n'en avait aucune de bonne. » Ben a dit qu'il avait eu envie de disparaître sous le plancher. À cette époque, la mère de Ben, Sonia, était elle aussi face à des obstacles. Elle venait d'une famille de 24 enfants, n'avait pas dépassé le niveau de cours élémentaire et ne savait pas lire. Elle avait été mariée à 13 ans, puis avait divorcé, avait deux fils et les élevait dans les ghettos de Détroit. Néanmoins, elle était farouchement indépendante et croyait fermement que Dieu les aiderait, ses deux fils et elle, s'ils faisaient leur part. Un jour, un tournant décisif s'est produit dans sa vie et celle de ses fils. Elle a compris que les gens qui avaient réussi, chez qui elle faisait le ménage, avaient une bibliothèque. Ils lisaient. Après le travail, elle est rentrée chez elle et a éteint la télévision que Ben et son frère regardaient. Elle a dit en substance, « Les garçons, vous regardez trop la télévision. À partir de maintenant, vous ne regarderez que 3 émissions par semaine. Pendant votre temps libre, vous irez à la bibliothèque, vous lirez 2 livres par semaine et vous m'en ferez un compte-rendu. » Les garçons étaient stupéfaits. Ben a dit qu'il n'avait jamais lu de livres de toute sa vie, à part ceux qui lui étaient imposés à l'école. Les garçons ont protesté, se sont plaints et ont plaidé, mais en vain. Puis Ben a expliqué. Elle avait défini la règle. Je n'aimais pas cette règle, mais sa détermination de nous voir nous améliorer a changé le cours de ma vie. Et quel changement cela a fait? En deuxième année de secondaire, il était parmi les meilleurs élèves de sa classe. Il a continué ses études à l'université de Yale comme boursier, puis à l'école de médecine Johns Hopkins, où, à 33 ans, il est devenu chef du service de neurochirurgie pédiatrique et chirurgien de renommée mondiale. Comment cela a-t-il été possible? En grande partie grâce à sa mère, qui, bien que peu avantagée dans la vie, a magnifié son appel de parent. Les Écritures parlent du rôle que les parents doivent tenir. Enseigner à leurs enfants la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, le baptême et le don du Saint-Esprit, et la doctrine du repentir. Nous, parents, nous devons être les principaux instructeurs de l'évangile de nos enfants et des exemples. Pas l'évêque, ni l'école du dimanche, ni les jeunes filles ou les jeunes gens, mais les parents. En tant qu'instructeurs principaux, nous pouvons leur enseigner le pouvoir et la réalité de l'expiation, leur identité et leur destinée divine, et ce faisant, leur donner une fondation solide sur laquelle bâtir. Au bout du compte, le foyer est le cadre idéal pour enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Il y a environ un an, j'étais en déplacement pour l'église à Beyrouth, au Liban. Là, on m'a parlé de Sarah, une fillette de 12 ans. Ses parents et son frère et sa sœur aînée s'étaient convertis à l'église en Roumanie, mais avaient été forcés de retourner dans leur pays natal quand Sarah n'avait que 7 ans. Dans leur pays, l'église n'était pas implantée. Il n'y avait pas d'unité organisée, pas d'école du dimanche, ni de programme des jeunes filles. 5 ans plus tard, la famille a appris l'existence d'une branche à Beyrouth. Et juste avant mon arrivée, les parents ont envoyé leur fille de 12 ans, Sarah, avec son frère et sa sœur aînée, se faire baptiser. Pendant que j'étais là-bas, j'ai animé une réunion spirituelle sur le thème du plan de salut. Sarah levait régulièrement la main pour répondre aux questions. Après la réunion, sachant qu'elle n'avait presque jamais été à l'église, je suis allé la voir et je lui ai demandé « Sarah, comment se fait-il que tu connais la réponse à ces questions ?» Elle a immédiatement répondu « Ma mère m'a enseigné. » Ces gens n'avaient pas l'église dans leur ville, mais ils avaient l'évangile dans leur foyer. La mère de Sarah était sa principale instructrice de l'évangile. C'est Enos qui a dit « Les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. » Nous savons sans aucun doute qui était le principal instructeur de l'évangile des noces. Je me rappelle mon père allongé près de la cheminée, lisant les Écritures et d'autres bons livres, et je m'allongeais près de lui. Je me souviens des cartes qu'il gardait dans la pochette de sa chemise avec des citations des Écritures, de Shakespeare et des mots nouveaux qu'il apprenait. Je me souviens des questions et des discussions sur l'Évangile pendant les repas. Je me souviens des nombreuses fois où mon père m'a emmené rendre visite à des personnes âgées et où il s'arrêtait pour acheter une glace pour l'un, un repas au poulet pour l'autre, ou laissait de l'argent dans sa poignée de main en partant. Je me souviens des bons sentiments et du désir que j'avais d'être comme lui. Je me souviens de ma mère qui, à 90 ans environ, avait cuisiné dans son appartement et était sortie avec un plateau de nourriture. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu « Oh, je vais porter à manger à des personnes âgées ». Je me suis dit « Maman, tu es une personne âgée ». Je ne serai jamais assez reconnaissant à mes parents qui ont été mes principaux instructeurs de l'Évangile. L'une des choses les plus importantes que nous, parents, puissions faire, c'est enseigner à nos enfants le pouvoir de la prière, pas simplement de faire la prière régulièrement. Quand j'avais environ 17 ans, agenouillé au pied de mon lit, je faisais ma prière du soir. À mon insu, ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit « Tad, as-tu demandé au Seigneur de t'aider à trouver une bonne épouse ?» Sa question m'a pris complètement de court. C'était la dernière chose que j'avais en tête. Je pensais au basket et à l'école. J'ai répondu non. À quoi elle a répliqué « Eh bien, tu devrais, mon fils. Ce sera la décision la plus importante de ta vie. » Ces paroles ont pénétré au plus profond de mon cœur, si bien que pendant les 6 années qui ont suivi, j'ai prié Dieu de m'aider à trouver une bonne épouse. Il a répondu à cette prière. Et de quelle manière? Nos parents, nous pouvons enseigner à nos enfants à prier pour ce qui a des conséquences éternelles. Prier pour avoir la force d'être moralement pur dans un monde très difficile, pour être obéissant et pour avoir le courage de défendre le bien. Je ne doute pas que nos jeunes fassent leur prière le soir, mais ils ont peut-être des difficultés à prendre l'habitude de faire une prière personnelle le matin. Nous pouvons, nous, parents, les principaux instructeurs de l'Évangile, corriger cela. Quels parents de l'époque du Livre de Mormon auraient laissé leur fils aller au combat sans armure, sans bouclier, sans épée pour se protéger des coups mortels de l'ennemi? Mais combien d'entre nous laissent leurs enfants franchir la porte de la maison chaque matin pour aller sur le plus dangereux des champs de bataille, affronter Satan et ses myriades de tentations, sans l'armure, le bouclier et l'épée spirituelle que confère le pouvoir protecteur de la prière? Le Seigneur a dit « Prie toujours afin de vaincre Satan ». Nous, les parents, pouvons inculquer à nos enfants l'habitude de la prière matinale pour qu'ils aient le pouvoir qu'elle procure. Nous pouvons aussi leur enseigner à faire bon usage de leur temps. Parfois, comme Sonia Carson, il nous faudra restreindre avec amour, mais fermement, le temps que nos enfants passent devant la télévision ou d'autres appareils électroniques qui, dans de nombreux cas, monopolisent leur vie. Au lieu de cela, il nous faudra peut-être recentrer leur temps sur des efforts plus productifs et orientés sur l'Évangile. Nous rencontrerons peut-être une résistance initiale, des plaintes, mais comme Sonia Carson, nous devons avoir la vision et la volonté de nous y tenir. Un jour, nos enfants comprendront ce que nous aurons fait et en seront reconnaissants. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Nous pourrions tous nous demander, est-ce que nous consacrons à nos enfants le meilleur de nos efforts spirituels, intellectuels et créatifs? Ou est-ce qu'ils reçoivent de nous ce qui reste de notre temps et de nos talents, après que nous avons tout consacré à notre appel dans l'Église ou à notre travail? Je ne sais pas si dans la vie à venir, les titres d'évêque ou de président de la société de secours perdureront. Mais ce que je sais, c'est que ceux de mari et femme, de père et mère, continueront d'exister et seront révérés au siècle des siècles. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important de nous acquitter de nos responsabilités de parents ici-bas, afin de pouvoir nous préparer pour celles encore plus grandes, bien que similaires, de la vie à venir. En tant que parents, nous pouvons avancer avec l'assurance que Dieu ne nous laissera jamais sans aide. Dieu ne nous donne jamais de responsabilité sans nous offrir une tâche, une aide divine. Je peux en rendre témoignage. Dans notre rôle divin de parents, puissions-nous, en partenariat avec Dieu, devenir les principaux instructeurs de l'Évangile, de nos enfants et des exemples. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter ensemble. Sauveur d'Israël. Après le chant, nous entendrons Jörg Klebingat et Eduardo Gavaret des 70. Frère Gavaret fera son discours dans sa langue maternelle, l'espagnol. Un sous-titrage en anglais s'affichera sur les écrans du centre de conférence. Ils seront suivis de Jeffrey R. Holland du Collège des 12 apôtres. Vous assistez à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau évaluez-vous votre confiance spirituelle devant Dieu? Avez-vous le témoignage personnel que votre offrande actuelle de saint des derniers jours est suffisante pour hériter la vie éternelle? Pouvez-vous dire en vous-même que notre Père Céleste est content de vous? Que penseriez-vous si vous aviez un entretien personnel avec votre Sauveur dans une minute? Les péchés, les regrets et les manquements domineraient-ils votre perception de vous-même ou seriez-vous simplement dans un état d'attente joyeuse? Voudriez-vous croiser son regard ou l'éviter? Vous tarderiez-vous à la porte ou iriez-vous à lui avec confiance? L'adversaire, quand il ne peut persuader des membres de l'Église imparfaits mais persévérants tels que vous d'abandonner leur croyance en un Dieu personnel et aimant, emploie une campagne hargneuse pour mettre le plus de distance possible entre Dieu et vous. L'adversaire sait que la foi au Christ, le genre de foi qui produit un flot constant de tendre miséricorde et même de grands miracles, va de pair avec l'assurance personnelle que vous efforcez de choisir le bien. C'est la raison pour laquelle il va chercher à avoir accès à votre cœur pour vous dire des mensonges, vous dire que votre Père Céleste est déçu de vous, que l'expiation est hors de votre portée, qu'il ne sert à rien d'essayer, que tous les autres sont meilleurs que vous êtes indignes et mille variations sur ce même thème pervers. Tant que vous autorisez ces voix à ronger votre âme, vous ne pouvez pas vous approcher du trône de Dieu avec une confiance véritable. Quoi que vous fassiez, quel que soit l'objet de vos prières, quelque miracle que vous espériez, il y aura toujours juste assez de doutes sur vous-même pour ronger votre foi. Non seulement votre foi en Dieu, mais aussi votre confiance en vous-même. Vivre l'Évangile de cette façon n'est pas agréable et pas très sain non plus, et surtout ce n'est pas vraiment nécessaire. La décision de changer vous appartient et n'appartient qu'à vous seul. Je vais vous donner 6 conseils pratiques qui, si vous les suivez, dissiperont ces voies néfastes et vous rendront le genre d'assurance paisible et de confiance spirituelle qui vous sont accessibles pour peu que vous le vouliez. Quel que soit le niveau que vous vous êtes attribué sur cette échelle de 1 à 10, en utilisant l'expiation de Jésus-Christ, vous pouvez commencer aujourd'hui à accroître votre confiance spirituelle si vous êtes disposé à écouter et à agir. Je vais parler franchement, espérant édifier, non offenser. Premièrement, assumez la responsabilité de votre bien-être spirituel. Cessez de rejeter la faute sur les autres ou sur votre situation. Cessez de vous justifier. Cessez de vous trouver des excuses pour ne pas vous efforcer pleinement d'être obéissant. Acceptez le fait que vous êtes libre sur la chair et libre de choisir la vie, la liberté et la vie éternelle. Le Seigneur connaît parfaitement votre situation, mais il sait aussi parfaitement bien si vous choisissez simplement de ne pas vivre pleinement l'Évangile. Si tel est le cas, soyez assez honnête pour l'admettre et efforcez-vous d'être parfait dans votre situation. Votre confiance spirituelle grandit quand vous assumez la responsabilité de votre bien-être spirituel en utilisant chaque jour l'expiation de Jésus-Christ. Deuxièmement, assumez la responsabilité de votre bien-être physique. Votre âme se compose du corps et de l'esprit. Quand on nourrit l'âme tout en négligeant le corps qui est un temple, cela conduit généralement à de la dissonance spirituelle et une perte d'estime de soi. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps et pouvez y faire quelque chose, faites-le. Russell M. Nelson a enseigné que nous devons considérer notre corps comme notre temple personnel et être attentif à bien nous nourrir et faire de l'exercice pour être en bonne condition physique. Boyka Packer a enseigné, notre esprit et notre corps sont unis de telle manière que notre corps devient l'instrument de notre esprit et le fondement de notre personnalité. Fin de citation. Par conséquent, faites preuve de bon sens dans ce que vous mangez, particulièrement en ce qui concerne la quantité, et donnez régulièrement à votre corps l'exercice dont il a besoin et qu'il mérite. Si vous en êtes physiquement capable, décidez aujourd'hui d'être le maître de votre maison et commencez un programme d'exercice régulier et à long terme, adapté à vos capacités, combiné à une alimentation plus saine. Votre confiance spirituelle grandit quand votre esprit, avec l'aide du Sauveur, est vraiment maître de votre homme ou de votre femme naturelle. Troisièmement, intégrez à votre vie l'obéissance volontaire d'un cœur résolu. Reconnaissez que vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer aussi ses commandements. Le principe du Sauveur est clair et simple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance sélective apporte des bénédictions sélectives. Et quand on choisit quelque chose de mal plutôt que quelque chose de pire, c'est tout de même le mal qu'on choisit. Vous ne pouvez pas regarder un film violent ou indécent et vous attendre à vous sentir vertueux parce que vous n'avez pas regardé un film très violent ou très indécent. L'obéissance fidèle de certains commandements ne justifie pas d'en négliger d'autres. Abraham Lincoln l'a dit à juste titre, « Quand je fais le mal, je me sens mal ». De plus, faites ce qui est juste pour les bonnes raisons. Le Seigneur qui exige le cœur et un esprit bien disposé et qui discerne les pensées et les intentions du cœur, sait pourquoi vous allez à l'église, que vous soyez seulement physiquement présent ou que vous lui rendiez vraiment un culte. Vous ne pouvez pas chanter le dimanche « ô Babylone, à toi mes adieux » et chercher ou tolérer s'accompagner de nouveau quelques instants plus tard. Souvenez-vous que la désinvolture dans le domaine spirituel n'a jamais été le bonheur. Faites de l'Église et de l'Évangile rétabli votre vie entière et non simplement une partie de votre vie extérieure ou sociale. Choisir aujourd'hui qui vous voulez servir n'est qu'un service du bout des lèvres tant que vous ne vivez pas en conséquence. Votre confiance spirituelle grandit quand vous efforcez vraiment et pour les bonnes raisons de mener une vie de consécration en dépit de vos imperfections. Quatrièmement, devenez réellement, réellement maître dans l'art de vous repentir entièrement et rapidement. Étant donné que l'expiation de Jésus-Christ est très pratique, vous devez l'appliquer généreusement en permanence, car elle ne vient jamais à manquer. Adoptez l'expiation de Jésus-Christ et le repentir comme quelque chose qui doit être reçu avec joie et appliqué quotidiennement en accord avec les instructions du grand médecin. Optez pour une attitude de repentir continu et joyeux en faisant le choix de votre vie. Ce faisant, gardez-vous de la tentation de remettre à plus tard et ne vous attendez pas à ce que le monde vous soutienne par ses acclamations. Gardez les yeux tournés vers le Sauveur et souciez-vous davantage de ce qu'il pense de vous, quelles que soient les conséquences. Votre confiance spirituelle grandit quand vous repentez volontairement et avec joie de vos péchés. Petits et grands, en temps réel, en appliquant l'expiation de Jésus-Christ. Cinquièmement, devenez réellement, réellement maître dans l'art de pardonner. Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Pardonnez à tout le monde, tout le temps, ou efforcez-vous au moins de le faire, ce qui vous permettra ainsi d'avoir le pardon vous-même. Ne gardez pas rancune, ne soyez pas facilement offensés. Pardonnez et oubliez promptement et ne pensez jamais que vous êtes exempté de ce commandement. Votre confiance spirituelle grandit quand vous savez que le Seigneur sait que vous n'avez pas de mauvais sentiments envers quelqu'un d'autre. Sixièmement, acceptez les épreuves, les revers et les surprises comme faisant partie de votre expérience dans la condition mortelle. Souvenez-vous que vous êtes ici pour être éprouvé et testé, pour voir si vous ferez tout ce que le Seigneur votre Dieu vous commandera. Et j'ajouterai en toutes circonstances, des millions de vos frères et sœurs ont été et sont ainsi testés. Alors pourquoi en seriez-vous exemptés? Certaines épreuves résultent de votre désobéissance ou de votre négligence. D'autres résultent de la négligence d'autres personnes ou sont dues du fait que ce monde est déchu. Quand ces épreuves surviennent, les sbires de l'adversaire commencent à diffuser le message que vous avez fait quelque chose de mal, que c'est un châtiment, ainsi que votre Père Céleste ne vous aime pas. Ignorez ces messages. Essayez, au contraire, d'arborer un sourire. Regardez vers le ciel et dites, « Je comprends, Seigneur, je sais de quoi il s'agit. » Une occasion de faire mes preuves, n'est-ce pas? Ensuite, associez-vous à lui et persévérez jusqu'à la fin. Votre confiance spirituelle grandit quand vous acceptez que, souvent, les épreuves et les tribulations surviennent dans votre vie en raison de ce que vous faites de juste. Un jour, alors que je présidais la mission de Kiev en Ukraine, j'ai demandé à l'une de mes sœurs les plus fidèles pourquoi elle était toujours si dure avec elle-même, pourquoi elle se flagellait toujours pour les choses les plus petites. Sa réponse est un exemple classique de réponse d'une personne qui écoute la mauvaise voix. Pour que personne d'autre ne le fasse mieux que moi. Frères et sœurs, voici. Le conseil que je donnais à cette sœur missionnaire est celui que je vous donne. Reconnaissez vos faiblesses et affrontez-les. Mais ne laissez pas vous immobiliser, parce que certaines d'entre elles seront vos compagnes jusqu'à ce que vous quittiez cette vie terrestre. Quel que soit votre état actuel, au moment même où vous choisissez volontairement d'accomplir un repentir honnête, joyeux et quotidien, en vous efforçant de faire de votre mieux et d'être le meilleur possible, l'expiation du Sauveur vous enveloppe et vous accompagne, pour ainsi dire, partout où vous allez. En vivant de cette manière, vous pouvez vraiment conserver toujours le pardon de vos péchés, chaque heure de chaque jour, chaque seconde de chaque minute, et ainsi être entièrement pur et acceptable devant Dieu tout le temps. Il ne tient qu'à vous, si vous le voulez, de savoir par vous-même, aujourd'hui ou bientôt, que vous êtes agréable à Dieu en dépit de vos manquements. Je témoigne du Sauveur, un Sauveur aimant qui attend de nous que nous obéissions au commandement. Je témoigne d'un Sauveur aimant qui est très désireux de nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Je témoigne d'un Sauveur aimant qui se réjouit quand nous appliquons son expiation chaque jour avec l'assurance calme et heureuse que nous orientons dans la bonne direction. Je témoigne d'un Sauveur aimant qui est très désireux de voir votre assurance devenir grande en la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Car voici, le Seigneur accorde à toutes les nations des gens de leur propre nation et de leur propre langue pour enseigner sa parole. Cette écriture s'accomplit une fois de plus, puisque la possibilité m'est donnée d'exprimer mes sentiments dans ma langue maternelle. En 1975, j'étais jeune missionnaire en Uruguay et au Paraguay. Au cours de mon premier mois, les dirigeants de zone ont organisé une activité pour démontrer un principe de l'Évangile. Chaque missionnaire avait les yeux bandés. Et nous devions suivre un chemin
qui devait nous conduire à la salle culturelle. Nous devions écouter la voix d'un dirigeant en particulier, une voix que nous avions entendue avant de commencer à marcher. Cependant, on nous avait averti qu'en cours de route, nous entendrions plusieurs voix qui essayeraient de semer la confusion dans notre esprit et nous amener à quitter le chemin. Au bout de quelques minutes, à travers le bruit et les gens qui parlaient, une voix a dit « Suivez-moi ». J'étais sûr que c'était la bonne voix. Une fois arrivés à la salle culturelle, nous avons enlevé nos bandeaux. Je me suis alors rendu compte qu'il y avait deux groupes et que j'étais dans celui qui avait écouté la mauvaise voix. Je me suis dit, j'avais pourtant bien l'impression que c'était la bonne. Cette expérience qui a eu lieu il y a 39 ans m'a marqué à vie. Je me suis dit, plus jamais je n'écouterai la mauvaise voix. Puis je me suis dit, oui Seigneur, je te suivrai. Voyons le rapport entre cette expérience et la tendre invitation que nous lance le Sauveur. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Cette invitation à le suivre est la plus simple, la plus directe et la plus convaincante que l'on puisse recevoir. Elle est lancée par une voix claire sur laquelle on ne peut pas se méprendre. Le Seigneur nous invite, en utilisant des verbes variés, à le suivre. « Venez à moi, suivez-moi, marche avec moi. » Ce n'est jamais une invitation passive. C'est chaque fois une invitation à agir. L'humanité tout entière reçoit cette invitation simple, directe et convaincante de celui qui est le prophète entre tous, le maître entre tous, le Fils de Dieu, le Messie. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous qui n'êtes pas encore membre de l'Église, vous recevrez cette invitation des missionnaires en ces termes. Allez-vous lire le livre de Mormon? Allez-vous prier? Allez-vous aller à l'Église? Suivrez-vous l'exemple de Jésus-Christ et vous ferez-vous baptiser par quelqu'un qui détient l'autorité? Comment allez-vous répondre aujourd'hui à cette invitation? Je vous invite à écouter et à accepter le message en disant « Oui Seigneur ». Je te suivrai. Carlos Badiola et sa famille de Minas, en Uruguay, avaient rendez-vous avec les missionnaires. Comme ceux-ci posaient beaucoup de questions au cours des leçons, les Badiola ont décidé d'inviter Norma, voici une non-membre, âgée de 14 ans, pour les aider à répondre. C'était une écolière appliquée qui étudiait la Bible à l'école cette année-là, de sorte que quand les missionnaires posaient une question, elle venait à la rescousse. C'était une amie de l'Église en or. Le thème de la leçon de ce jour-là était la parole de sagesse. Quand elle est rentrée chez elle après la leçon avec les missionnaires, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle a dit à sa mère, « Maman, à partir de maintenant, plus de café au lait pour moi. » Rien que du lait. Cette réaction était la manifestation visible de son désir d'accepter l'invitation des missionnaires de suivre le Christ. Carlos Badiola et Norma se sont fait baptiser. Plus tard, suivant l'exemple de cette jeune fille, sa mère, son père et ses frères et sœurs se sont également fait baptiser. Norma et moi avons grandi ensemble dans cette petite branche de Minas, pleine de spiritualité. Plus tard, à mon retour de mission, nous nous sommes mariés. J'ai toujours su qu'il me serait plus facile de suivre le Sauveur avec elle à mes côtés. Le membre de l'Église qui a accepté cette invitation renouvelle son engagement chaque semaine en prenant la Sainte Cène. Cet engagement consiste à respecter les commandements. En le faisant, nous disons, « Oui, Seigneur, je te suivrai. » Suis-moi. C'est l'invitation que le Seigneur a lancée au jeune homme riche. Il avait respecté les commandements toute sa vie. Quand le jeune homme a demandé ce qu'il pouvait faire de plus, il a reçu une réponse avec une invitation claire. « Viens et suis-moi. » Cependant, malgré sa simplicité, cette invitation impliquait un sacrifice. Elle nécessitait un effort, accompagné d'une décision et d'une action. Le prophète Néphi nous invite à l'introspection lorsqu'il dit « Jésus a dit aux enfants des hommes, « Suivez-moi ». Pouvons-nous donc, mes frères bien-aimés, suivre Jésus si nous ne sommes pas disposés à garder les commandements du Père ? L'invitation à aller à lui, à écouter sa voix et à le suivre est le message des missionnaires depuis le début, et elle a aidé de nombreuses personnes à changer leur vie en bien. Il y a 50 ans, des missionnaires sont entrés dans la boutique de mon père pour faire réparer une montre. Comme le font les bons missionnaires, ils en ont profité pour parler de l'Évangile avec mes parents. Mon père a accepté les missionnaires et ma mère a accepté le message et l'invitation à suivre le Christ. Depuis, elle est restée pratiquante dans l'Église. Elle a dit, « Oui, Seigneur, je te suivrai. » Dans vos efforts pour aller à lui, vous obtiendrez le pouvoir d'alléger vos fardeaux, physiques ou spirituels, et de changer, d'être plus heureux et de connaître la paix intérieure. Enoch fut appelé à prêcher l'Évangile à des gens difficiles et au cœur endurci. Il ne se sentait pas à la hauteur. Il doutait de sa capacité à le faire. Le Seigneur apaisa ses doutes et fortifia sa foi en lui lançant l'invitation « Marche avec moi ». Invitation qui, comme la canne de l'aveugle ou le bras d'un ami, peut guider une personne dont les pas sont incertains. En se saisissant du bras du Sauveur et en marchant avec lui, Enoch s'aperçut que son pas s'affermissait et il devint un prophète et un grand missionnaire. La décision d'aller vers le Sauveur et de le suivre est personnelle. Quand nous acceptons cette invitation, notre niveau d'engagement augmente et c'est alors que nous pouvons marcher avec lui. Ce niveau crée une relation plus étroite avec le Sauveur, fruit de notre acceptation de la première invitation. Norma et moi avons accepté chacun l'invitation d'aller à lui et de le suivre. Puis ensemble, en nous soutenant mutuellement, nous avons appris à marcher avec lui. L'effort et la détermination de le rechercher et de le suivre seront récompensés par les bénédictions dont nous avons besoin. Ce fut le cas pour la femme qui, au prix d'un grand effort, réussit à toucher le vêtement du Sauveur, et pour Bartimée, l'aveugle, dont la détermination fut un facteur décisif dans le miracle dont il bénéficia. Dans ces deux cas, une guérison physique et spirituelle fut accordée. Tendez la main, touchez son vêtement, acceptez son invitation, dites « Oui Seigneur, je te suivrai » et marchez avec lui. Venez à moi, suivez-moi, marchez avec moi, sont des invitations qui ont, pour les personnes qui les acceptent, le pouvoir d'opérer un changement intérieur qui les amènera à dire « Je n'ai plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. » Ce changement se manifestera par un grand désir d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. Quelles étapes pouvons-nous suivre pour marcher avec lui? Nourrissez le désir d'être un meilleur disciple du Christ. Priez pour que votre foi en lui grandisse. Dans les Écritures, obtenez la connaissance qui éclaire la voie et fortifie votre désir de changer. Prenez la décision aujourd'hui d'agir et dites « Oui Seigneur, je te suivrai ». Le simple fait de connaître la vérité ne changera pas votre monde, sauf si vous traduisez la connaissance en action. Persévérez dans la décision que vous avez prise en mettant quotidiennement ces principes en pratique. Puisse les paroles de notre prophète bien-aimé, le président Monson, nous motiver à agir en nous donnant le désir d'accepter l'invitation du Sauveur. Le président Monson a dit, « Qui est le roi de gloire, ce Seigneur des armées ? Il est notre Maître, il est notre Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est l'auteur de notre salut. Il nous appelle, suivez-moi. Il commande, va et toi, fais de même. Il supplie, gardez mes commandements. Fin de citation. Puissions-nous prendre la décision d'élever notre niveau d'adoration et d'engagement envers Dieu, et puissions-nous répondre haut et clair à son invitation. Oui, Seigneur, je te suivrai. Au nom sacré de Jésus-Christ, amen.
What a wonderful new element introduced into our General Conference format.
Quels merveilleux nouveaux éléments introduits dans le format de notre conférence générale. Dans ce qui a dû être le moment le plus surprenant du début de son ministère, Jésus s'est levé dans la synagogue de Nazareth, son village, et a lu ses paroles prophétiques d'Ésaïe, rapportées dans l'évangile de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et pour envoyer libres les opprimés. C'est ainsi que le Sauveur a fait sa première annonce publique de son ministère messianique. Mais ce verset montre aussi clairement qu'en chemin vers son sacrifice expiatoire final et sa résurrection, Jésus aurait pour premier devoir messianique de bénir les pauvres, y compris les pauvres en esprit. Dès le début de son ministère, Jésus a aimé les démunis et les défavorisés d'une manière extraordinaire. Il est né chez deux d'entre eux et il a grandi parmi beaucoup d'autres. Nous ne connaissons pas tous les détails de sa vie matérielle, mais il a dit un jour, « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Apparemment, le Créateur des cieux et de la terre et de tous ceux qui s'y trouvent était du moins au cours de sa vie d'adulte sans abri. De tout temps, on a considéré la pauvreté comme la difficulté la plus grande et la plus répandue du genre humain. Son tribut le plus visible est souvent physique, mais le préjudice spirituel et émotionnel qui peut en résulter peut être encore plus invalidant. Quoi qu'il en soit, le grand Rédempteur n'a pas lancé d'invitation plus persistante que celle de nous joindre à lui pour soulager son peuple de ce lourd fardeau. En tant que Jéhovah, il a dit qu'il jugerait la maison d'Israël avec dureté, disant « La dépouille du nécessiteux est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres ?» L'auteur des Proverbes a dit les choses très clairement. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Et celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera aussi lui-même et n'aura point de réponse. À notre époque, l'Église rétablie de Jésus-Christ n'avait pas encore un an quand le Seigneur a commandé à ses membres de veiller sur les pauvres et les nécessiteux et de leur apporter du soulagement pour qu'ils ne souffrent pas. Remarquez le commandement donné dans ce passage, qu'ils ne souffrent pas. C'est le genre de langage que Dieu emploie quand il veut que les choses se fassent. Compte tenu du défi monumental que représente la lutte contre les inégalités existant dans le monde, que peut faire un homme ou une femme? Le Maître lui-même a proposé une réponse. Quand, avant qu'il soit trahi et crucifié, Marie a oint la tête de Jésus avec un baume de grand prix utilisé pour les sépultures, Judas Iscariote a protesté contre cette extravagance et s'est irrité contre elle. Jésus a dit, « Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. » Quelle formule succincte! Un jour, un journaliste a interrogé Mère Teresa de Calcutta au sujet de sa cause perdue consistant à secourir les indigents de cette ville. Il a dit que, statistiquement parlant, elle n'accomplissait absolument rien. Cette petite femme remarquable a rétorqué que son œuvre était une œuvre d'amour et non de statistiques. En dépit du nombre incommensurable de gens qui se trouvaient hors de sa portée, elle a dit qu'elle pouvait obéir au commandement d'aimer Dieu et son prochain en servant les personnes qui se trouvaient à sa portée, avec les moyens dont elle disposait. En une autre occasion, elle a dit, « Ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si nous ne le faisions pas, l'océan aurait une goutte de moins. » Le journaliste a conclu sobrement que, de toute évidence, le christianisme ne se soucie pas des statistiques. Il a fait la réflexion que s'il y a plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentir, c'est qu'apparemment Dieu ne se préoccupe pas trop des pourcentages. Comment pouvons-nous donc faire ce que nous pouvons? Pour commencer, nous pouvons, comme l'enseigne le roi Benjamin, cesser de retenir notre main parce que nous considérons que le pauvre s'est attiré sa propre misère. Peut-être certains se sont-ils effectivement créés leurs difficultés. Mais n'est-ce pas exactement ce que nous faisons tous? N'est-ce pas pour cette raison que ce dirigeant compatissant demande « Ne sommes-nous pas tous mendiants? Ne supplions-nous pas tous pour avoir de l'aide, de l'espoir et des réponses à nos prières? Ne mendions-nous pas tous le pardon des fautes que nous avons commises et des problèmes que nous avons causés? N'implorons-nous pas la grâce pour compenser nos faiblesses et la miséricorde pour qu'elle l'emporte sur la justice, au moins dans notre cas? » Il n'est donc pas étonnant que le roi Benjamin dise que nous obtenons la rémission de nos péchés en suppliant Dieu, qui répond avec compassion, mais que nous conservons la rémission de nos péchés en répondant avec compassion aux pauvres qui nous supplient. En plus des actes miséricordieux que nous accomplissons en leur faveur, nous devons aussi prier pour les nécessiteux. Un groupe de Zoramites considéré comme de la souillure et du rebut par le corréligionnaire, selon les Écritures, était chassé de leur lieu de prière à cause de la grossièreté de leurs habits. Mormon dit qu'ils étaient pauvres quant aux choses du monde et également pauvres de cœur. Deux conditions qui vont presque toujours de pair. Pour contrer ce rejet répréhensible des malvêtus, les collègues missionnaires, Alma et Amulek, leur disent que quels que soient les privilèges que les autres puissent leur refuser, ils peuvent toujours prier, dans leur champ et dans leur maison, dans leur famille et dans leur cœur. Puis, à ce même groupe qui a été refoulé, Amulek ajoute, « Lorsque vous avez prié, si vous renvoyez les nécessiteux et les nus, et ne visitez pas les malades et les affligés, et ne donnez pas de vos biens, si vous en avez, à ceux qui sont dans le besoin, je vous le dis, votre prière est vaine et ne vous sert de rien. Et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. » Quel rappel remarquable que riches ou pauvres, nous devons faire ce que nous pouvons quand d'autres personnes sont dans le besoin. À présent, de crainte d'être accusé de proposer des programmes sociaux mondiaux totalement irréalistes ou d'approuver la mendicité comme mode d'accroissement, je tiens à vous assurer que mon allégeance aux principes de diligence, d'économie, d'autonomie et d'ambition est aussi ferme que celle de n'importe qui. Il est toujours attendu de nous que nous nous prenions en charge avant de demander à d'autres de nous aider. En outre, je ne sais pas exactement comment chacun de vous doit s'acquitter de son obligation envers les personnes qui ne se prennent pas en charge ou qui n'en sont pas toujours capables. Mais je sais que Dieu le sait. Et il vous guidera dans des actes compatissants de disciples. Si vous êtes vraiment désireux d'obéir à un commandement qu'il nous a donné à maintes reprises, et si vous priez et cherchez consciencieusement des moyens pour le faire, vous reconnaîtrez que je parle ici de besoins sociétaux difficiles qui vont bien au-delà des membres de l'Église. Heureusement, la manière du Seigneur d'aider les nôtres est plus facile. Toutes les personnes qui en sont physiquement capables doivent observer la loi du jeûne. Ésaïe a écrit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Je rends témoignage des miracles tant spirituels que temporels dont bénéficient les gens qui vivent la loi du jeûne. Je rends témoignage des miracles qui se sont produits dans ma vie. D'une façon très réelle, comme Ésaïe l'a écrit, j'ai appelé dans mon jeûne et Dieu a vraiment répondu. Plus d'une fois, me voici. Profitez de ce droit sacré au moins chaque mois et soyez aussi généreux que la situation le permet dans vos offrandes de jeûne et dans les autres contributions humanitaires, éducatives et missionnaires. Je vous promets que Dieu sera généreux envers vous et les personnes que vous secourez béniront à jamais votre nom. Plus de 750 000 membres de l'Église ont reçu de l'aide l'année dernière par le biais des offrandes de jeûne administré par des évêques et des présidents de la société de secours dévouée. Cela fait beaucoup de saints des derniers jours reconnaissants. Frères et sœurs, un tel sermon exige que j'exprime ma reconnaissance pour les bénédictions non gagnées, non méritées et continuelles, tant temporelles que spirituelles, que j'ai reçues. Comme vous, j'ai eu par moments des soucis financiers, mais je n'ai jamais été pauvre et je ne sais même pas ce qu'on éprouve quand on est une personne pauvre. En outre, je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles les circonstances de notre naissance, notre santé, nos possibilités éducatives et économiques offrent une telle diversité dans la condition mortelle. Mais quand je vois le dénuement de tant de personnes, je sais que ce n'est que par la grâce de Dieu que ce n'est pas mon lot. Je sais aussi que bien que je ne puisse ne pas être le gardien de mon frère, je suis le frère de mon frère, et que parce que j'ai tant reçu, je dois aussi donner. À cet égard, je rends un hommage personnel au président Monson. Cela fait maintenant 47 ans que j'ai la bénédiction de côtoyer cet homme. Et l'image que je chérirai jusqu'à ma mort est celle que j'ai de lui, rentrant chez lui en avion, en provenance de l'Allemagne de l'Est, économiquement ruinée à cette époque, chaussé de ses pantoufles, parce qu'il avait donné non seulement son deuxième costume et ses chemises supplémentaires, mais aussi les chaussures qu'il avait aux pieds. Qu'ils sont beaux sur les montagnes et dans un terminal d'aéroport, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Plus qu'aucun homme que je connais, le président Monson a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'opprimé. Dans une révélation donnée en 1831 à Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a dit que les pauvres verraient un jour le royaume de Dieu venir avec puissance et une grande gloire pour les délivrer. Puissions-nous contribuer à la réalisation de cette prophétie, armés du pouvoir et de la gloire, de notre appartenance à la véritable Église de Jésus-Christ, pour faire ce que nous pouvons pour délivrer tous ceux que la pauvreté emprisonne et qui détruit tant de leurs rêves. Je prie au nom miséricordieux de Jésus-Christ. Amen.
Merci, frère. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. L'émission nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Notre dernier orateur de cette session sera L. Tom Perry du Collège des 12 apôtres. Après son discours, le chœur clora cette réunion en chantant « Demeure auprès de moi, Seigneur ». Ensuite, Edward Dubé, des 70, fera la prière de clôture.
Le voyage de notre vie a des bons et des mauvais moments. Chacun présente des difficultés différentes. La façon dont nous apprenons à nous adapter aux changements qui surviennent dépend de la fondation sur laquelle nous bâtissons. L'Évangile de notre Seigneur et Sauveur fournit une fondation sûre et solide. Elle se construit pièce par pièce. À mesure que nous acquérons la connaissance du plan éternel du Seigneur pour ses enfants, le Sauveur est le maître pédagogue. Nous le suivons. Les Écritures témoignent de lui et nous donnent un exemple de parfaite droiture à suivre. Lors d'une conférence précédente, j'ai dit aux membres de l'Église que j'avais un certain nombre de cahiers dans lesquels ma mère a consigné des notes qu'elle utilisait pour préparer ses leçons de la société de secours. Ces notes sont autant d'actualité aujourd'hui qu'alors. L'une d'elles est une citation d'un texte écrit en 1908 par Charles Edward Jefferson sur la personnalité de Jésus-Christ. Elle dit « Être chrétien, c'est admirer Jésus avec tant de sincérité et de ferveur que notre vie tout entière lui est consacrée dans une aspiration à lui ressembler. Nous pouvons apprendre qui il est par les paroles qu'il a prononcées, par les actes qu'il a accomplis et aussi par ses silences. Nous pouvons aussi le connaître par l'impression qu'il a faite premièrement sur ses amis, deuxièmement sur ses ennemis, et troisièmement sur l'ensemble de ses contemporains. L'une des caractéristiques de la vie du XXe siècle est le mécontentement. Le monde aspire à quelque chose sans même savoir quoi. La richesse est là, et le monde est rempli d'inventions produites par le talent et le génie humain. Mais nous sommes toujours inquiets, insatisfaits et perplexes. Si nous ouvrons le Nouveau Testament, nous trouvons ces paroles. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Je vous donne ma paix. Vous recevrez du pouvoir. Vous vous réjouirez. Je poursuis. Les hommes et les femmes sont façonnés en partie par les personnes parmi lesquelles ils choisissent de vivre, les personnes qu'ils prennent comme référence et essaient d'imiter les façonnent aussi. Jésus est le grand exemple. La seule façon de trouver une paix durable est de vivre en le prenant pour référence. Qu'est-ce qui, chez Jésus, mérite le plus notre étude? Les auteurs du Nouveau Testament n'ont accordé aucune attention à la stature de Jésus, aux vêtements qu'il portait ou aux maisons dans lesquelles il vivait. Il est né dans une étable, a travaillé dans un atelier de charpentier, a enseigné pendant 3 ans, puis est mort sur une croix. Le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui étaient déterminés à ce que nous fixions les yeux sur lui avec l'assurance qu'il était et est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Je crois qu'une des paraboles du Sauveur s'applique tout particulièrement à notre époque actuelle. Au chapitre 13 de Matthieu, nous lisons « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ce vieil ennemi de toute l'humanité a trouvé tous les moyens possibles et imaginables pour disperser l'ivraie à tout vent. Il a même trouvé des moyens de la faire pénétrer dans la sainteté de notre foyer. Les choses mauvaises du monde sont devenues si largement répandues aujourd'hui qu'il semble qu'on ne peut pas vraiment les éliminer. Elles arrivent par le câble et par les ondes, jusqu'aux appareils que nous avons inventés pour nous éduquer et nous divertir. Le blé et l'ivraie ont poussé ensemble. Un intendant s'occupant du champ doit nourrir ce qui est bon de tout son pouvoir et le rendre si fort et si beau que l'ivraie n'aura pas d'attrait pour l'œil ou l'oreille. Combien nous sommes bénis, nous qui sommes membres de l'Église du Seigneur, d'avoir pour fondation le précieux évangile de notre Seigneur et Sauveur sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Dans le livre de Mormon, dans 2e Néphi, nous lisons « Car voici, je vous l'ai dit encore, si vous voulez entrer par le chemin et recevoir le Saint-Esprit, il vous montrera tout ce que vous devez faire. Nous ne devons jamais laisser le bruit du monde supplanter et étouffer cette petite voix douce. Assurément, nous avons été avertis d'événements que nous vivrons à notre époque. La difficulté consistera à savoir comment nous préparer pour les événements dont le Seigneur a dit qu'ils se produiraient certainement. Nombreux sont les gens qui, dans notre société inquiète, comprennent que la désintégration de la famille n'apportera que le chagrin et les espoirs dans un monde troublé. Nous, membres de l'Église, nous avons la responsabilité de préserver et de protéger la famille, cellule de base de la société et de l'éternité. Les prophètes nous ont avertis et mis en garde contre la conséquence inévitable et destructrice de la détérioration des valeurs de la famille. Tandis que le monde continue de nous observer, veillons à ce que notre exemple soutienne le plan que le Seigneur a conçu pour ses enfants dans la condition mortelle. Le plus grand enseignement que de tous doit être un exemple de justice. Notre foyer doit être un lieu saint pour résister aux pressions du monde. Souvenez-vous que les plus grandes bénédictions du Seigneur sont données aux familles justes et se transmettent par elles. Nous devons continuer soigneusement d'évaluer ce que nous accomplissons en tant que parents. L'enseignement le plus efficace qu'un enfant recevra jamais sera celui d'un père et d'une mère intentionnée et juste. Voyons d'abord le rôle de la mère. Écoutez cette déclaration du président Hinckley. Les femmes qui font d'une maison un foyer apportent bien plus à la société que celles qui commandent de grandes armées ou dirigent de grandes entreprises. Qui peut estimer le prix de l'influence qu'une mère a sur ses enfants? Une grand-mère sur sa postérité, ou des tantes et des sœurs sur leur famille élargie. Nous ne pouvons ne serait-ce que commencer à mesurer ou calculer l'influence des femmes qui, à leur manière, créent une vie de famille stable et éduquent pour un bien éternel les générations à venir. Les décisions prises par les femmes de cette génération auront des conséquences d'une portée éternelle. Je déclare que les mères d'aujourd'hui n'ont pas de plus en grande occasion ni de plus grand défi que de faire tout ce qu'elles peuvent pour fortifier le foyer. Voyons maintenant le rôle qu'un père joue dans notre vie. Le père donne des bénédictions et accomplit des ordonnances sacrées pour ses enfants. Celles-ci deviendront des moments spirituels marquants de leur vie. Le père prend personnellement la direction des prières familiales, de la lecture quotidienne des Écritures et des soirées familiales hebdomadaires. Il institue des traditions familiales en aidant personnellement à planifier des voyages, de vacances et des sorties qui font participer tous les membres de la famille. Ses enfants n'oublieront jamais ces beaux moments passés ensemble. Le père a régulièrement des entretiens en tête-à-tête avec ses enfants et leur enseigne les principes de l'Évangile. Il enseigne à ses fils et à ses filles la valeur du travail et les aide à se fixer des buts de valeur pour leur vie. Il donne l'exemple du service fidèle dans l'Évangile. Mes frères, souvenez-vous, s'il vous plaît, de votre appel sacré de père en Israël, votre appel le plus important dans le temps et l'éternité, un appel dont vous ne serez jamais relevé. Il y a de nombreuses années, nous avions l'habitude, lors des conférences de pieux, de montrer un petit film pour illustrer le thème du message que nous présentions. Au cours de l'année, en voyageant dans l'église pour assister aux conférences de pieux qui nous étaient attribuées, nous en sommes venus à très bien connaître le contenu du film. Le message est resté présent à mon esprit pendant toutes ces années. Le narrateur du film était le président Lee. Il racontait un incident qui s'était produit dans le foyer de sa fille. Cela disait ceci. Un soir, une mère s'employait avec frénésie à essayer de finir de mettre des fruits en conserve. Enfin, les enfants étaient au lit et le calme régnait. Elle décida qu'elle pouvait à présent s'occuper des fruits. Alors qu'elle commençait à peler et dénoyauter les fruits, deux petits garçons sont arrivés dans la cuisine et annonçaient qu'ils étaient prêts pour leur prière de coucher. Ne voulant pas être interrompue, la mère a répondu rapidement au garçon. « Et si vous faisiez votre prière tout seul ce soir, pour que maman continue de s'occuper des fruits ?» L'aîné des deux fils s'est campé fermement sur ses jambes et a demandé « Qu'est-ce qui est le plus important ? La prière ou les fruits ?» Nous nous trouvons parfois dans des situations où nous avons l'occasion d'enseigner à un enfant une leçon qui aura un effet durable sur sa vie. Bien sûr que la prière est la plus importante que les fruits. Pour être efficace, le père ou la mère ne doit jamais être trop occupé pour mettre à profit un moment de la vie de l'enfant où une leçon importante peut lui être enseignée. Je suis fermement convaincu qu'il n'y a jamais eu, dans ma longue vie, de période où les enfants de notre Père Céleste ont eu davantage besoin d'être guidés par la main de parents fidèles et dévoués. Nous avons un héritage grand et noble de parents abandonnant presque tout ce qu'ils possèdent pour trouver un endroit où ils puissent élever leurs enfants avec foi et courage, pour que la génération suivante ait de plus grandes possibilités que celles qu'ils ont eues. Nous devons trouver en nous cette même détermination et surmonter les difficultés que nous rencontrons avec le même esprit de sacrifice. Nous devons faire adhérer les générations futures toujours plus fortement aux enseignements de notre Seigneur et Sauveur. Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas, jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui fournit cette fondation, sur laquelle nous pouvons trouver une paix durable et édifier une famille éternelle. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven,
notre cher Père Céleste,
we come before the,
nous venons devant toi
at the conclusion,
à la fin
general conference session,
de cette session de conférence générale,
with gratitude in our hearts,
avec beaucoup de reconnaissance en nos cœurs pour les messages inspirants que nous avons reçus de tes servants. Nous te remercions, Père, pour le rétablissement de ton évangile, pour un prophète vivant, des prophètes de nos jours. Nous sommes reconnaissants pour notre cher président Thomas S. Monson. Nous te demandons que tu puisses le bénir avec la santé et la force, ainsi que ceux avec qui il travaille, tandis qu'il dirige ton royaume. Nous te demandons, Père, que le message que nous avons reçu et que nous allons recevoir durant toutes les sessions de cette conférence puisse renforcer notre foi en Jésus-Christ et nous inspirer à être de meilleurs parents, de meilleurs grands-parents, de meilleurs enfants et petits-enfants dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 184th semi-annual.
Vous venez d'assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur composé de membres demeurant dans les régions de Grantsville, Stanbury Park et Tulle en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.